bien, pardonnez-nous pour ces petits incidents techniques, nous parvenons à rétablir la liaison. C'est effectivement une journée un petit peu particulière qui se présente à nous aujourd'hui, une journée qui consiste à décrypter un petit peu le choix des électeurs israéliens à la suite de ce troisième tour de scrutin en moins d'un an. Troisième cours de scrutin qui détermine effectivement la composition de la nouvelle Knesset et la possibilité ou pas de pouvoir former un nouveau gouvernement. Et pour cela, nous avons le plaisir de retrouver notre correspondant permanent en Israël, Richard Darman. Bonjour.
Bonjour, Assana.
Alors, Richard Darman, j'imagine que la nuit a été quelque peu courte, puisque traditionnellement, même si des tendances fortes étaient déjà présentes hier soir avec les premières estimations sorties des urnes, il n'en demeure pas moins que nous avons tous en mémoire les modifications susceptibles d'intervenir entre les estimations du soir et la réalité du matin.
Oui, c'est toujours une constante, il y a des nuances. En fait, les grandes tendances sont quand même affirmées. Un indice d'ailleurs, c'est que les trois organismes de sondage, les trois principales chaînes, donnaient à peu près la même fourchette et pas trop de contradictions. Alors, pour faire le point sur l'aspect quantitatif à l'heure qu'il est, puisque la commission centrale des élections, la commission nationale, il y a à peu près 20 minutes, a fait état des chiffres, la répartition des mandats sur 90% des bulletins exprimés, c'est-à-dire 90% donc du dépouillement. Il y a à cette heure, et évidemment ça peut changer parce que 90%, c'est-à-dire que 10% n'ont pas été comptés, ce sont les voix des soldats, les voix des Israéliens itinérants, des diplomates, aussi des gens qui sont limités, qui sont infirmes, etc. Ça représente 10%, 10% c'est beaucoup, c'est 6 à 8 mandats. Et donc sur 90% donc des suffrages exprimés, le Likoud arrive en tête avec 36 mandats, le Parti bleu-blanc de centre-gauche 32, ensuite la troisième partie c'est la liste arabe unie avec 15 mandats, et donc ensuite on a le Parti chasse avec 10, le parti Agudat Israël, ou du moins Yadut HaTorah, qui sont les religieux ashkénazes, 7. Le parti de Israël Bétenou de Lieberman, 7. Le parti travailliste associé à Meretz, parti d'extrême gauche, et à Gecher, de la fille de David Lévy, avec Assis Lévy, obtient 7. Yamina, 6. Alors si on fait le compte droite-gauche, à l'heure qu'il est, mais encore une fois, ça peut évoluer. Certains disent que ça pourrait peut-être évoluer dans le sens de la droite, ce qui reste à vérifier, dans la mesure où ce sont les votes des soldats. Mais en tout cas, à l'heure qu'il est, on a 59 mandats pour donc le bloc de droite, le Likoud, chasse, Yadut HaTorah et Amina, et 54 pour le parti bleu-blanc, la gauche, n'obtient que 7 sièges, et la liste arabe qu'on assimile à ce bloc-là, donc 59 contre 54, et Israël Bétenou se trouve au milieu avec 7 mandats. Alors c'est vrai qu'il faut noter aussi au niveau des chiffres qu'il y a eu un taux de participation très fort, 71% des inscrits sont allés voter, ce qui bat le record, un taux de participation très élevé qu'on n'avait pas enregistré depuis 20 ans. Et par exemple en septembre dernier, il n'y avait eu que 69,8% des inscrits qui sont allés voter. Donc il reste 10% de comptage. Ça peut être important pour tout le monde. Évidemment, une petite modification, même d'un ou deux sièges, parce que si par exemple Likoud avec son bloc atteignait les 61, il pourrait, sur le papier du moins, former un gouvernement sans d'autres partis, tandis que s'il reste à 59 voire même 60, il faudra qu'il y ait des négociations. On reparle à nouveau d'un gouvernement du nom national, mais tous les orateurs du parti bleu et blanc qu'on a entendu depuis hier soir répètent à l'infini qu'ils ne sont pas contre un gouvernement du nom national, mais ils ne siégeront pas dans le même gouvernement que Netanyahou, Donc en fait, ça revient à dire une chose et son contraire, parce que on voit mal le Likoud après une telle, disons, une victoire au point, assez nette en tout cas, puisque le Likoud est redevenu le premier parti d'Israël, 36 contre 32 pour bleu et blanc. On voit mal des défections, enfin au sein du Likoud, une tempête s'élever pour aller gouverner avec bleu et blanc sans Netanyahou. C'est absolument inconcevable, surtout que tout le monde avait le sentiment, a le sentiment que c'est une victoire personnelle du Premier ministre.
Alors, ce sont évidemment des tendances fortes qui ont été, qui se sont illustrées à travers cette élection, avec un renforcement de la droite, avec, à noter, même si ce n'est pas un élément essentiel dans le paysage ces dernières années, mais un effondrement de la gauche traditionnelle. Le Parti travailliste a dû, pour espérer obtenir un nombre de sièges suffisant, s'allier avec le Meretz, et malgré cela, le score n'est pas à la hauteur.
Maintenant, un score de 7 députés, c'est un petit parti, pas un groupuscule, mais ce n'est pas le Parti travailliste auquel on est habitué il y a 10, 20, évidemment, encore moins il y a 30 ans. Et donc, on peut dire qu'il n'y a plus de gauche en Israël, de la gauche classique, à tel point que ses porte-paroles, hier soir et pendant toute la nuit, parce que d'ailleurs j'ai un peu moins de voix que d'habitude, ses porte-paroles étaient assez déconfits en disant qu'il fallait l'idéologie restait la même, mais qu'il fallait revoir la stratégie politique. Et les leçons sont loin d'être encore tirées. Il y a une déconfiture totale au sein de cette gauche devenue tellement minoritaire, puisqu'elle fait, elle a, si vous voulez, à peu près la même voix que un autre parti, cette fois-ci à droite, Yamina, qui affiche son nom, parce que Yamina, ça veut dire à droite, qui a 6-7 députés. Donc, vous imaginez, on est là, donc pas dans les groupuscules, mais dans les petits partis. Alors, si on devait tirer les grandes tendances, à part cet effondrement confirmé de la gauche, les grandes tendances de ce scrutin, il y en a plusieurs. La première, c'est que, comme tout le monde l'a remarqué, et même des fois les médias qui sont assez hostiles, les médias nationaux, certains médias nationaux qui sont assez hostiles au Likoud et à la droite, ont reconnu que Netanyahou et son parti, ce sont eux qui ont remporté cette élection parce qu'ils sont en position de former le prochain gouvernement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'il n'y a plus de gauche en Israël. La troisième chose tout de même, c'est que et certains l'ont fait remarquer aussi, c'est que le peuple d'Israël s'est prononcé de manière majoritaire pour appliquer la souveraineté juive sur Eretz Israël, puisque en fait l'un des enjeux de ces élections, c'était l'application du plan Trump, qui prévoit que ce plan s'applique, si Israël et le gouvernement tient ses promesses, eh bien il y aura non pas une annexion, parce que ce mot est déplacé, mais une extension de la souveraineté israélienne sur une bonne partie de la Judée Samarie, le tiers des terres, mais la totalité des localités juives. Et donc ça, c'est aussi l'un des enjeux, et c'est aussi ce qui ressort un peu de cette élection, c'est qu'il y a une majorité d'Israéliens qui ont donné leur confiance à Hollywood pour tenir ce programme. Une autre leçon de ce scrutin, et ça c'est un sujet qu'on risque de retrouver réminiscent dans les semaines qui viennent, c'est un vote de défiance des Israéliens, du peuple d'Israël, ce que j'appelle moi le pays réel, contre, si vous voulez, l'appareil judiciaire et le pouvoir judiciaire qui depuis de nombreux mois, voire plusieurs années, monopolise les décisions unilatérales pour barrer la route et pour mettre des bâtons dans les pieds de l'exécutif, puisque bon, c'est un corps qui fait partie de l'un des trois pouvoirs, à côté du pouvoir parlementaire, c'est-à-dire législatif, et du pouvoir exécutif, le gouvernement. Le pouvoir judiciaire, qui n'est pas élu, qui est coopté, a pris des décisions d'année en année qui sont de plus en plus paralysantes pour le pays, et certains parlent d'un coup d'État permanent. En reprenant la fameuse formule de Mitterrand sous la Ve République pour qualifier le fonctionnement du pouvoir gaullien, gaulliste, il y a un vrai problème, c'est que là, finalement, les citoyens d'Israël, bien que Netanyahou ait été démonisé, vilipendé, et par la majorité des médias, et par l'appareil judiciaire qui d'abord a fait correspondre l'emploi du temps des élections avec les échéances des trois inculpations de Netanyahou et aussi l'annonce juste avant le vote de son procès pour l'ouverture de son procès pour le 17 mars, c'est-à-dire dans 2 semaines exactement. Franchement, le judiciaire s'est pas mal mêlé de ce qu'il ne regardait pas en jouant les saintes nitouches, puisque il nous explique que ce sont les échéances judiciaires. Or là, ce qui est quand même incroyable, c'est que malgré les efforts médiatiques et les efforts politiques qui ont été faits au centre-gauche pour mettre fin au règne de Netanyahou, eh bien le peuple a donné un blanc-seing au Premier ministre pour qu'il reforme à nouveau son gouvernement. Et c'est donc indirectement un vote de défiance des citoyens d'Israël vis-à-vis de l'appareil judiciaire et de ce coup d'État permanent d'un pouvoir qui pouvoir judiciaire qui est de plus en plus proéminent, à tel point que certains parlent d'un gouvernement des juges. Et donc là, c'est une tendance intéressante qu'il faudra suivre. Et puis, il y a aussi, une autre tendance, c'est qu'évidemment, les résultats ne sont pas définitifs, mais la liste arabe unie, qui regroupe 4 partis arabes, a obtenu un score très appréciable, avec pour l'instant 15 députés. Et donc c'est aussi, bon, on comprend que c'est aussi le résultat de cette bipolarisation Likoud de Kahol Lavan, bleu et blanc, qui fait que un certain nombre d'Israéliens, bon, ils ont fait des calculs qu'il y avait des Israéliens de gauche et d'extrême gauche qui n'ont pas voté pour Meretz et le Parti travailliste, mais qui vont voter pour les listes arabes.
Alors justement, concernant ce phénomène qui est quand même intéressant, on a l'impression qu'il y a une sorte de charnière, de tournant historique où peut-être, je parle parce que c'est un regroupement un peu hétéroclite, hein, cette liste arabe, il n'en demeure pas moins qu'il y a sans doute à l'intérieur de l'électorat en question une véritable volonté d'intégration dans la société israélienne, le fait d'accepter le jeu démocratique de l'État sioniste.
Oui, jusque-là, il y avait un fort taux d'abstention dans les scrutins, des fois, il n'y avait que 40% de votants. Et cette fois-ci, il y a eu 60% de votants, c'est-à-dire un quart en plus, c'est énorme. Beaucoup de femmes sont allées voter. Alors, les causes de cette mobilisation, vous voyez les choses, je dirais, de manière optimiste. C'est vrai que c'est aussi beaucoup d'Arabes israéliens se considèrent israéliens, tout en étant donc de membres de la minorité arabe. Et en fait, sont pas aussi radicaux que le leadership arabe, des députés arabes, qui est très très pro-palestinien, très cinquième colonne, si je puis dire. Il y a une dichotomie entre la base des votants arabes veulent participer, comme vous le dites, à la vie de la société de l'État d'Israël, qui se considèrent comme israéliens. D'ailleurs, je cite au passage le fait que les populations et les maires, même des grandes villes de ce qu'on appelle le Triangle, la région de Basse-Galilée, sont cités dans le plan Trump comme étant susceptibles de pouvoir passer sous souveraineté palestinienne si on fait des échanges de territoire, et bien on hurlait et on jurait leurs grands yeux que jamais ils ne seraient sous souveraineté palestinienne et qu'ils voulaient rester israéliens. C'est assez étonnant, je dirais, parce que il y a un discours un peu à triple face. Vous avez le discours officiel des députés arabes qui est très radical, très extrémiste, très anti-israélien. Et vous avez les réactions de la base qui sont assez différentes. Et puis il y a cette élection, troisièmement. L'une des raisons pour lesquelles il y a eu une mobilisation, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, c'est quoi? C'est que le leadership, enfin Ahmed Tibi et le numéro un de la liste ont insisté pour que leur frère aille voter contre Netanyahou, contre le raciste Netanyahou, parce que toute la mobilisation dans le secteur arabe s'est faite pour barrer la route à Netanyahou, au racisme, au prétendu racisme du Premier ministre qui a proposé des lois, etc., qui ne leur plaisent pas. Donc en fait, cette mobilisation, c'est pas simplement, je dirais, une volonté de participer de manière pacifique à la vie démocratique, c'est aussi là un scrutin très politisé, pour faire que cette liste empêche la formation d'un gouvernement de droite à nouveau. Et d'ailleurs, Ahmed Tibi, l'un des leaders, hier soir, est traité très dépité parce que malgré leur bon score, Il a constaté que, de son côté, Carol Velara n'avait pas tenu son mandat et avait échoué. Et donc, il a parlé d'un jour noir pour la démocratie israélienne, ce qui est assez amusant et contradictoire. Mais en tout cas, il a mis en cause le parti bleu et blanc pour justement ses prises de position ambiguës sur la question de savoir s'il fallait qu'il y ait un gouvernement soutenu par une majorité d'électeurs juifs, etc. Dès qu'on prononce le mot juif pour les partis arabes, ça les fait, ça leur hérisse le poil. Donc vous voyez l'analyse cette forte poussée de la liste arabe doit être très précise, très profonde. Et c'est pas seulement positif. Il y a des éléments un peu complexes.
Alors avant de revenir sur la campagne elle-même, on a parlé tout à l'heure du risque de république des juges. On n'a pas évoqué ce que nous discutions en antenne, à savoir une initiative. Alors est-ce un épiphénomène ou quelque chose de sérieux d'un certain nombre d'associations projetant de former un recours devant la Cour suprême pour invalider la possibilité pour le Premier ministre de former un gouvernement au prétexte qu'il serait mis en examen?
Mais écoutez, oui, le pouvoir judiciaire n'a certainement pas dit son dernier mot. Je vous répète que déjà l'annonce, juste une semaine avant les élections, que le procès Netanyahou, dont il est question depuis des années, allait s'ouvrir le 17 mars, le lendemain même de la date prévue pour que la Knesset, les nouveaux députés, prêtent serment, donc en plein moment de manœuvre post-électorale pour former un gouvernement. D'avoir fixé une date si proche, c'est quand même assez suspect. Et puis, d'ailleurs, certains se demandent si le Premier ministre et ses avocats n'ont pas demandé un report de l'ouverture de ce procès, parce que c'est une ouverture formelle. On lira les actes d'accusation contre Netanyahou, ce qui ne serait pas très agréable pour lui, puisqu'il est obligé d'ailleurs d'être présent. Mais après, le procès ne démarrera avec les citations de plus de 350 témoins sur trois affaires, ne démarrera vraiment que cet été. Mais donc, même cette ouverture symbolique, là, il se peut que le Premier ministre demande qu'elle soit reportée. Maintenant, ce dont on parle, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux que cette ouverture formelle du procès, qui de toute manière tombe mal pour Netanyahou. Mais qui ne l'a pas empêché justement de vaincre, ce que j'ai signalé tout à l'heure. C'était absolument incroyable qu'un Premier ministre qui a été démonisé, qui a été qualifié de délinquant par la presse et par la droite, et d'ailleurs à tel point que les derniers jours, le parti bleu et blanc ne parlait pas de Netanyahou, il parlait de l'inculpé, au sens d'un qualificatif anonyme. L'inculpé ne peut pas être Premier ministre. Quand on en arrive là, vous voyez que malgré tout les résultats on sont ce qu'ils sont, c'est que le peuple ne s'est pas laissé berner, même à une courte majorité, mais a donné sa confiance donc en ce Premier ministre. Or, on le disait ensemble, le pouvoir judiciaire n'a certainement pas dit son dernier mot, parce que déjà aujourd'hui, quelques heures après donc le 2 mars, l'avocat qui dirige l'Association pour la transparence de la vie publique a saisi la Cour suprême d'un recours pour lui demander de se prononcer en éthique, parce que le droit lui-même prévoit qu'un Premier ministre inculpé qui passe en jugement peut exercer ses fonctions tant qu'il n'est pas condamné. Donc, malgré cela, en fait, ce recours qui est présenté par l'Association pour la transparence de la vie publique a demandé à ce que la Cour empêche, se prononce en éthique, je dirais, sur la possibilité qu'un Premier ministre, même désigné, enfin, je dirais, soutenu par une majorité, ne serait pas dans la capacité de former un gouvernement pour des raisons morales. Et donc, la Cour suprême, dans sa séance plénière, va certainement devoir se réunir dans les semaines qui viennent. Il se peut que ce soit d'ailleurs assez rapide, parce que les concertations pour la formation du gouvernement vont commencer demain. Donc elle va se réunir, elle décidera si, malgré le verdict populaire, dont on ne connaît pas encore vraiment les chiffres, mais qui quand même sont très précis, et on sait où ça va, à un ou deux sièges près, eh bien si Netanyahou ne va pas être décrété comme non fondé en droit, et en éthique, à former un gouvernement, ce qui sera alors là, nous disions ensemble tout à l'heure en antenne, ce qui serait un véritable coup d'État judiciaire, qui est d'ailleurs très risqué, parce que quand le peuple a dit son mot et que 15 juges cooptés qui n'ont aucun compte à rendre à quiconque et qui appliquent des principes de droit cosmopolite, qui sont d'ailleurs pas des principes de droit hébraïque, tout d'un coup vont disqualifier Netanyahou. Je crains que si ça va dans ce sens-là, le pays ne se retrouve dans une grande agitation et ça suscite une opposition, y compris dans la rue, contre les juges de la Cour suprême, chose qu'on n'a encore jamais vue et qui n'est pas souhaitable. C'est-à-dire que le coup d'État permanent, là, risque d'être une sorte de touche judiciaire pour voler sa victoire à Netanyahou.
On va revenir dans un instant sur les différents scénarios, mais j'aimerais qu'on s'arrête juste un moment sur l'hypothèse où, à l'occasion d'un éventuel ou de plusieurs éventuels débauchages de la part du bloc de droite sur d'autres partis, une majorité pouvait être formée, un gouvernement pouvait donc être présenté et trouver évidemment une possibilité de faire fonctionner la démocratie israélienne. Quel est le délai si d'aventure, par exemple, demain, Netanyahou, enfin, je ne sais pas au bout de combien de temps le président Rivlin va confier la tâche à Benjamin Netanyahou de former un gouvernement.
Ça va être dès cette semaine.
Dès cette semaine. Maintenant, dans l'hypothèse où, à la lumière d'un ou de plusieurs débauchages, Benjamin Netanyahou est capable de former un gouvernement, la Knesset, en combien de temps peut-elle se réunir? Et quelle est ma question sous-jacente? C'est le vote sur l'immunité que souhaitait obtenir Benjamin Netanyahou, lui permettant de ne pas durant son mandat se présenter devant les juges, pourrait-il advenir d'ici combien de temps? En tout cas, est-ce qu'il pourrait advenir avant la date de la présentation prévue devant les juges?
Oui. Alors écoutez, on mélange plusieurs, c'est un peu compliqué, mais il faut séparer un petit peu le bon grain de l'ivraie. Premièrement, les délais, le calendrier est le suivant. Dans les jours qui viennent, au vu des résultats définitifs qui seront connus que demain, le comptage des 10% supplémentaires ne sera publié que demain, donc on aura les résultats officiels que demain. Le président Rivlin va certainement nommer Netanyahou. On ne voit pas comment il pourrait nommer Benny Gantz. Il va nommer Netanyahou pour former un gouvernement. D'ici là, d'ailleurs, soit dit entre nous, comme le disaient plusieurs commentateurs aujourd'hui, le Premier ministre a tiré des leçons de ses deux erreurs précédentes où il a été investi de ce mandat et puis tout de suite il a essayé de trouver le 61e sans y parvenir. Là, il semble que dès aujourd'hui, comme vous le laissiez entendre, il y a des contacts qui sont pris avec pour essayer de trouver, si le Likoud n'arrive pas à 61, essayer de trouver un ou deux députés qui soutiendraient le gouvernement. Pour l'instant, on ne sait pas très bien qui. Ça sera sûrement parmi les gens du Parti Bleu et Blanc qui aura le bol de voir le pays en impasse, et il se peut qu'il y ait des surprises. Mais en tout cas, Netanyahou va faire attention cette fois-ci à ne pas épuiser son mandat. Alors en termes de délai, il a 24 jours à partir du moment où, par exemple, mercredi ou jeudi, les résultats seront connus demain. Donc mettons que Rivlin lui confie vendredi le fait de former le gouvernement. Il a 24 jours pour y arriver. Ce qui nous mène, si on calcule bien, disons au début avril, enfin à peu près à Pessah, et s'il n'y est pas arrivé, il peut avoir une prolongation encore de 14 jours. Donc ça nous mène fin avril.
Ça, c'est l'extension, c'est la vision extensive. Maintenant, s'il a résolu son équation, il a réussi aujourd'hui à débaucher un ou deux députés, est-ce que dès lors que le président Rivlin lui confie la tâche de former le gouvernement, il peut dire en 24 heures, j'ai fermé le gouvernement, et est-ce qu'à ce moment-là, la Knesset se réunit?
Oui, mais pour l'instant, je vais vous dire, comme ce qui unifie les quatre tendances du Parti Bleu et Blanc, qui est aussi un rassemblement, c'est le seul ciment commun, c'est d'être contre Netanyahou. Ça ne va pas être une partie de plaisir facile de trouver un ou deux... Parce qu'il faut savoir que si un ou deux députés rejoignent le Likoud, ou tout du moins soutiennent le gouvernement Likoud et se désolidarisent de leur groupe d'opposition, ils n'ont plus d'avenir politique, dans le sens où ils pourront évidemment plus se représenter à bleu et blanc. Intégrer le Likoud, ce n'est pas forcément ce qu'ils souhaitent. Il y a un pari sur leur avenir politique qui n'est pas évident au niveau individuel. Maintenant, je complète ma réponse à votre question, c'est que avec l'immunité parlementaire, on ne parle plus d'immunité parlementaire, parce que Netanyahou a renoncé à la demander. Alors c'est vrai que Maintenant, en plus, donc, comme il a renoncé à la demander, vous vous souvenez, le jour où Trump a publié son plan, dans les heures qui ont suivi, le conseiller juridique du gouvernement est venu au tribunal, a donc, du moment que le Premier ministre ne voulait plus recourir à la possibilité d'une immunité parlementaire, il a donc saisi le tribunal de district de Jérusalem pour commencer le procès. Donc maintenant, on ne parlera plus d'immunité parlementaire.
Il ne peut pas réitérer il ne peut pas changer d'avis.
Absolument pas, mais non, parce que le tribunal est convoqué, les juges ont été désignés. Mais par contre, ce qui est possible, et ça, c'est si la Cour suprême ose casser donc la décision populaire en disant que Netanyahou, au plan moral et éthique, n'est pas en mesure de former le gouvernement. Par contre, il y a un autre recours qui n'est pas l'immunité parlementaire, qui est le recours suivant, c'est que ce qu'on appelle le Chok Hatzfatzatit, la loi à la française, que Netanyahou n'a pas osé présenter quand il était avec les coudées franches à la Knesset, c'est que la Knesset vote l'application de la loi française qui voulait qu'un président de la République, en l'occurrence pas un Premier ministre, parce que c'est différent ici, mais en tout cas que le numéro un de la nation ne peut pas être jugé tant qu'il est en
exerce
son mandat. Mmh. Ça, c'est un des recours, une des répliques que pourrait avancer la droite pour empêcher le pouvoir judiciaire de neutraliser Netanyahou. Donc, vous voyez, on n'est pas encore sorti de l'auberge et les batailles juridiques ne font que commencer. Mais ce qui est notable, c'est tout de même, et je reviens là-dessus parce que les citoyens d'Israël, on en franchement ras-le-bol. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que cette fois-ci, il y a eu, ce ras-le-bol s'est transformé non pas en indifférence, mais en mobilisation, puisqu'il y a eu un fort taux de participation, pour qu'on en finisse et pour que cette troisième élection soit celle qui permettra que enfin Israël soit gouverné avec un gouvernement stable. Mais si l'appareil judiciaire fait des siennes et si ça cafouille encore, je crois que ça créera un mécontentement populaire qui pourrait être dangereux.
Alors, en conclusion, peut-être, Richard Darmon, quel est le risque que l'on se trouve, malgré la victoire évidente du bloc de droite, quel est le risque que l'on puisse se retrouver devant un quatrième tour des élections en septembre prochain ?
Eh bien, le risque est directement proportionnel au dogmatisme anti-Netanyahou du parti bleu et blanc. Parce que, alors que le parti bleu et blanc, après les deux précédents scrutins, avait plus ou moins accepté l'idée d'un gouvernement d'union, il y avait toutes sortes de systèmes qui avaient été proposés, que Netanyahou exercerait son mandat jusqu'à son jugement, et qu'il pourrait le continuer. D'ailleurs, si c'était 2 ans chacun, il pourrait le continuer s'il était acquitté, mais s'il n'était pas, ben à ce moment-là, il devrait démissionner de son poste. Bref, il y a des solutions qui permettraient à Bleu et Blanc des solutions qui ont déjà été envisagées, qui permettraient à Bleu et Blanc de pouvoir composer et de pouvoir participer au gouvernement d'union pour sortir de l'impasse. Mais là, ils se sont pris au piège de leur propre, j'aime pas dire le mot, haine contre Netanyahou, mais en tout cas leur dégoût de Netanyahou, qu'ils ont traité d'ailleurs dans les derniers jours de la campagne de dictateur à la Mussolini et à la Erdogan, ce qui était quand même assez outrecuidant et assez fort. Aujourd'hui, finalement, ils sont pris à leur propre jeu, parce que pour pouvoir accepter de former un gouvernement d'union, il faudrait qu'ils ne peuvent pas, comme on le disait tout à l'heure, dire on va gouverner avec le Likoud sans Netanyahou. Donc il faudrait qu'ils acceptent de composer, mais ça aussi, ça risque d'avoir des incidences sur le parti, parce qu'il y a des tendances comme celle de Lapid qui est absolument contre. Sans doute que Gantz serait plus souple. Ils risquent leur propre cohésion interne à nouveau reposer la possibilité ou l'hypothèse d'un gouvernement d'union. C'est quelque chose qui, vu la radicalisation de la campagne de Bleu et Blanc depuis 2 mois, qui semble difficile, mais je pense que c'est sur ce levier que va s'appuyer le Likoud et Netanyahou dans les jours qui viennent pour essayer de proposer un gouvernement d'union, parce que finalement, s'ils refusent le parti bleu et blanc en mettant en cause personnellement Netanyahou, on verra bien que leur seule ciment, le seul dénominateur commun qu'ils ont, c'est leur opposition à Netanyahou et pas un programme politique. Donc ils risquent aussi leur propre cohésion interne.
Je crois qu'on a procédé à un large tour d'horizon. Richard Darmon, je vous remercie. On aura l'occasion, évidemment, en fonction de l'évolution des décomptes, notamment de tous ceux de l'étranger ou des soldats qui peuvent influer, infirmer ou confirmer ou renforcer dans telle ou telle direction. On verra dans les prochaines éditions, en tout cas, je vous en prie.
Je voulais juste ajouter une dernière conclusion qui était un peu... qui a été discuté sur les plateaux de télévision et qui est aujourd'hui d'ailleurs sur plusieurs médias, certains commentateurs ont fait des analyses panoramiques de l'état des forces dans le pays. C'est la chose suivante, c'est qu'à l'époque d'Oslo, quand le pays était très très divisé entre droite et gauche, au moment des accords d'Oslo, il y avait deux slogans de la rue, si je puis dire, émanant de la base du peuple, qui avait été marquant. Tout le monde se souvient du slogan « Aham im Agolan », le peuple avec le Golan. Bon, ça, c'était par rapport à la discussion avec les Syriens. Et puis, il y a eu un autre slogan dont on s'est moins rappelé, mais qui est tellement, je dirais, d'actualité aujourd'hui, après ce dernier tour d'élection. Ce slogan disait à l'époque « Amanigim Khalashim Aval Aham Khazak ». Les leaders ou le leadership est faible, opportuniste, mais le peuple est fort. Et finalement, les déconvenus de la gauche et du parti bleu et blanc auquel on a assisté, qui risque de d'ailleurs se confirmer par le résultat des infinitives, ça part à chaque fois du fait que certaines élites israéliennes n'ont pas compris encore, après tant de déconvenus et après tous les problèmes rencontrés par Netanyahou, y compris avec ses procès des inculpations, qui puissent à nouveau être, je dirais, soutenus par une majorité d'Israéliens. C'est tout simplement une certaine élite israélienne, certains leaders n'ont pas compris que, j'allais dire, de manière définitive et pour de longues années encore, le pays réel, et pas le pays légal, le pays réel d'Israël avait le cœur à droite. Et ça, ce sont des réalités qu'une certaine élite, qu'on voit très bien sur les plateaux entre journalistes de toutes les tendances, et puis aussi dans les journalistes, eh bien, il y a des gens qui n'ont pas encore compris que le clou était depuis longtemps enfoncé. L'électorat israélien est un électorat de centre-droite, et de droite dans certains moments un peu plus affirmé, mais en tout cas de centre-droite, et pas de gauche. Et ça, c'est la leçon historique renouvelée de ce scrutin.
Excellente conclusion. Richard Darmon, merci. On retrouvera évidemment d'autres informations dans les prochaines éditions, en tout cas dès que nous aurons des inflexions permettant de confirmer, d'infirmer les résultats actuels. Je rappelle que vous intervenez en direct de Jérusalem. Je vous